bonjour. Cette guerre durera, les mots d'Emmanuel Macron ce matin en visite express au salon de l'agriculture au troisième jour de l'invasion russe en Ukraine. Image de la matinée, un immeuble résidentiel touché par un missile dans la nuit éventré à Kiev, la capitale. Elle est au centre de l'attention, les combats y font rage la nuit dernière et ce matin avec une armée russe qui ne progresse pas si facilement. Nous serons dans la capitale ukrainienne dès le début de ce journal. Le président ukrainien Zelensky assure, lui, tenir bon. Il s'affiche en vidéo dans les rues de Kiev ce matin encore. Dans ce journal également, nous verrons comment s'organisent les élans de solidarité un peu partout en France. Émission spéciale ce soir avec les Ukrainiens entre 18 et 20 heures sur France Inter. Nous irons au salon de l'agriculture avec des visiteurs ravis. Et en Écosse, où le 15 de France espère la victoire dans le tournoi Destination. À 13h20, après le journal, Secret d'info avec Jacques Monin. Au programme aujourd'hui,
eh bien, nous verrons comment les arnaques s'adaptent à l'évolution de la société, qu'il s'agisse de siphonner votre compte personnel de formation ou de vous pousser à investir dans des EHPAD. Nous verrons que les escrocs redoublent d'ingéniosité.
Et puis le Conseil culture de la rédaction de France Inter à la fin de ce journal.
France Inter.
Et d'abord, première conséquence très concrète des sanctions prises à l'encontre de la Russie. Un navire russe intercepté la nuit dernière au large de Calais dans la Manche a raisonné par plusieurs patrouilleurs de la douane et de la marine française. Bateau soupçonné d'être lié aux intérêts financiers russes, visé justement par les sanctions européennes prononcées depuis jeudi. Un acte fort, rare. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour.
Ce bateau a donc été intercepté la nuit dernière.
Cargo a raisonné, vous l'avez dit, par les douaniers et la police maritime sans violence. Le navire a été depuis dérouté sur le port de Boulogne-sur-Mer où il se trouve toujours à quai, bloqué par les autorités françaises. Mesure forte, rare et signe de fermeté, assure la préfecture maritime, du jamais vu depuis 20 ans. Le navire de 127 mètres de long est donc parti hier de Rouen et transporte des véhicules à destination de Saint-Pétersbourg en Russie. Les enquêteurs français sont à bord. Ils procèdent à des fouilles. Ils effectuent aussi des vérifications pour connaître les liens avec les intérêts financiers russes, puisque ce cargo appartient à un riche homme d'affaires en lien avec le Kremlin. Il figure donc sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne. Du côté du gouvernement français, Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics et à la tête des douanes, confirme ce matin à France Inter ces informations. Des fouilles sont bien en cours, le gel et la saisie également de la cargaison. Une procédure tout à fait en règle avec les sanctions européennes face à l'invasion russe en Ukraine. Le ministre qui confirme également qu'il s'agit du seul bateau pour le moment concerné. Et preuve de la tension grandissante et du poids de cette mesure, l'ambassade russe à Paris, prévenue immédiatement par le capitaine du navire, exige des éclaircissements.
Marion Ferrer, merci beaucoup. Des combats sur l'avenue de la Victoire à Kiev, une des principales artères de la capitale ukrainienne aujourd'hui encore, au centre de l'attention internationale au troisième jour de cette invasion russe dans le pays. Le dernier bilan des autorités ukrainiennes fait état de près de 198 civils tués depuis le début de l'offensive. Entre les bombardements et le retentissement des sirènes, nous prenons tout de suite la direction de la capitale Kiev, où les habitants sortent ce matin prudemment des abris. Omar Waman, envoyé spécial en Ukraine, est allé à leur rencontre.
Après une nouvelle nuit de bombardement, Margarita, 23 ans, marche d'un pas rapide en direction de la place Maïdan.
On a dormi dans le métro et je pense que nous dormirons encore dans le métro la nuit prochaine. Il y avait beaucoup de monde.
Children, pets,
il y avait des enfants, il y avait même des animaux de compagnie.
Vous avez pu fermer l'œil ?
Pas vraiment, on a dormi une heure ou deux, mais ce n'était pas facile.
Les rues sont désertes alors que les bombardements n'ont pas cessé avec le lever du jour. Mariana, 32 ans, est sortie prendre l'air.
Je suis restée chez moi, il y a un abri anti-bombe dans l'immeuble et chaque fois que l'on entendait les sirènes, on descendait au sous-sol jusqu'à ce que ça se calme. Je n'ai pas envie de quitter ma ville à cause de ces envahisseurs et donc je vais rester ici.
Cette nouvelle journée commence comme elle s'est terminée, avec les sirènes d'alerte suivies de puissantes explosions. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Pour le moment, la capitale est donc toujours sous le contrôle de l'Ukraine. C'est en tout cas ce que rappelle ce matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonjour Eric Begala.
Bonjour.
En direct de Kiev, envoyé spécial de France Inter avec vous. On va faire le point sur les combats en cours. L'armée russe qui encercle Kiev et qui pour l'instant ne semble pas réussir à avancer facilement.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la situation n'est absolument pas stabilisée. Absolument tous les fronts, qu'il s'agisse de Kiev, la capitale de Kharkiv, à l'est du pays, ou même des côtes de la mer Noire, tous ces fronts restent très très fluides. Les offensives russes et les contre-attaques ukrainiennes se succédant d'heure en heure. Ce qui est certain, c'est que l'armée ukrainienne et la population ukrainienne avec elle font bonne figure, ils tiennent. Les forces armées ukrainiennes contrent systématiquement les avancées russes et arrivent parfois même à reprendre des positions très importantes. La ville de Kherson, par exemple, sur la mer Noire, à l'embouchure du Dniepr. Elle avait été prise par les Russes dans la journée d'hier. Ce matin, des habitants se filmaient avec leur téléphone portable devant le bâtiment du gouvernement local, flanqué de son drapeau ukrainien jaune et bleu. Apparemment, une partie, au moins, de Kherson a été reprise par les Ukrainiens. Autre image, publiée ce matin sur les réseaux sociaux, celle d'une colonne blindée russe avançant nuitamment dans les faubourgs de Kiev et arrêtée par une avalanche de cocktails Molotov envoyés depuis les étages des immeubles dès qu'elle s'engageait en zone urbaine. Ce matin, au lever du jour, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, se filmait avec son téléphone portable devant la maison aux Chimères, un édifice Art Nouveau très connu dans le centre-ville. On est là, assurait-il, on ne déposera pas les armes.
Éric Biegala, envoyé spécial de France Inter à Kiev, merci beaucoup. Et justement, dans ces combats, vous le disiez, un homme s'affiche en première ligne, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui apparaît à nouveau ce matin sur une vidéo publiée sur Facebook dans les rues de Kiev. « Nous repoussons avec succès les attaques ennemies », dit-il. Boris Loumagne, vous êtes en Ukraine à Lviv, dans l'ouest du pays. Le chef de l'État appelait hier encore les Européens aguerris à venir se battre aux côtés de l'Ukraine. Une véritable omniprésence médiatique et diplomatique du président Zelensky.
L'une des armes du président Zelensky, c'est son téléphone portable. Hier soir, dans les rues de Kiev, il se filme entouré de son équipe. Et même s'il sait qu'une partie de la population a fui la capitale, voilà ce qu'il affirme.
Le Premier ministre est là, le président est là, nos soldats sont là, nos citoyens sont là. Nous sommes tous là pour défendre notre indépendance, notre pays, et ce n'est pas prêt de changer. Gloire aux hommes et aux femmes qui nous défendent, gloire à l'Ukraine, gloire à nos héros.
La vidéo fait le tour du monde, les réseaux sociaux, armes de contre-propagande du président ukrainien face à la Russie. Exemple encore ce matin, Volodymyr Zelensky se filme devant la résidence présidentielle.
Il y a plusieurs fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, dont l'une qui dit que je demanderai à notre armée de rendre les armes et d'évacuer. La vérité, c'est que l'Ukraine, c'est notre terre, et que l'on va défendre tout le monde.
Et ces réseaux sociaux, le président ne les maîtrise pas seul. Il est entouré de producteurs de télévision et de scénaristes, des amis de longue date rencontrés lors de sa précédente carrière de comédien.
Boris Loumagne, à Lviv en Ukraine pour France Inter. Et pour tenter de comprendre comment résistent les Ukrainiens à cette offensive russe, l'invité de ce journal est Sophie Lambroschini, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine contemporaine, chercheuse au centre Marc Bloch à Berlin. Bonjour.
Ben oui, bonjour.
Vous êtes autrice du livre Les Ukrainiens, paru en 2016. Vous étiez il y a 15 jours encore près de la ligne de front dans le Donbass. D'abord, est-ce que l'armée ukrainienne régulière a les moyens de résister à cette offensive?
Vous avez écouté comme moi les informations de votre correspondant sur place et donc qui illustre en fait la modernisation considérable et l'amélioration en équipement et en formation de l'armée ukrainienne depuis 2014. Donc ce n'est plus du tout la même armée que la Russie a en face. En plus de la du nombre d'hommes réguliers, donc à peu près de 215 000, il y a des centaines de milliers avec une certaine expérience de combat et aussi une armée qui a été mobilisée dans un patriotisme beaucoup moins engagé avant 2014 et aussi une solidarité, je dirais, entre la société civile et l'armée. Qui s'exprime, voilà.
Le conflit engagé en 2014 a renforcé ce patriotisme, dites-vous. Est-ce que peut-on attendre finalement des réservistes et au-delà des civils dans le soutien à l'effort de guerre?
Pour les réservistes, mais même plus loin, les volontaires civils s'organisent maintenant dans ce qu'on appelle les défenses territoriales. Donc les images ont pas mal circulé sur les réseaux et les médias, où des citoyens ordinaires vont dans les lieux de rassemblement pour recevoir des armes. Et donc on sent cette volonté de d'agir parfois par les armes, mais ensuite les circulent aussi beaucoup les réseaux de solidarité pour l'armée qui avaient été mis en place en 2014 quand les soldats manquaient, et aussi les bataillons de volontaires qui avaient joué un grand rôle les premiers mois de la guerre en 2014-2015 avant d'être intégrés dans l'armée régulière.
Et c'est ce qu'on appelle ces réseaux citoyens,
en forme,
ces réseaux citoyens qui... C'est ce qu'on appelle ces réseaux citoyens qui apportent une aide, j'allais dire en deuxième, troisième ligne, qui se mobilisent depuis le début de l'offensive.
Oui, là je parlais du soutien de ces réseaux aux forces armées, aux forces combattantes, disons, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de l'armée régulière, mais bien sûr ces réseaux aussi qui sont plus ou moins organisés ou informels jouent aussi à d'autres niveaux. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de d'articles, d'exemples de la manière dont après 2014 la société civile ukrainienne s'est finalement organisée, est apparue autour du Maïdan, de la Révolution de la Dignité, puis ensuite dans la guerre. Donc c'était aussi bien de l'aide humanitaire aux populations civiles près de la ligne de front que une aide juridique pour défendre les droits. Et donc on voit maintenant que cette mobilisation a permis une organisation très rapide dans le contexte actuel, donc de choc, de consternation totale qui a laissé beaucoup de personnes disons figées, mais qui en a mobilisé d'autres. Et donc par exemple dans les 24 heures après le 24 février au soir, il y avait une organisation qui s'appelle Le Refuge, qui organise donc des lieux de refuge en Ukraine et à l'étranger, et des moyens de transport.
Merci beaucoup Sophie Lombroskini, spécialiste de l'Ukraine, sur cette mobilisation du peuple ukrainien en soutien à son armée. 13h12 sur France Inter. Autre conséquence des sanctions européennes dont nous vous parlions dès le début de ce journal, un début d'inquiétude en Russie. On ne peut pas encore parler de panique parmi la population, mais un phénomène, des files d'attente qui se multiplient et qui s'allongent devant les distributeurs de billets, avec une peur de manquer de liquidité pour les moscovites. C'est ce qu'a constaté notre correspondant Sylvain Tronchet. Et à 13h13, nous allons... À 15h, un rassemblement est prévu place de la République à Paris en soutien aux Ukrainiens. Les initiatives se multiplient un peu partout sur le territoire avec des rassemblements prévus notamment à Châteauroux, à Brest ou encore à Lyon. De nombreuses villes ont également arboré le drapeau bleu et jaune ukrainien sur la façade de leur mairie, Marseille, Bordeaux ou encore Toulouse. Les soutiens s'affichent un peu partout en France, Yann Gallic.
À la nuit tombée, la tour Eiffel s'illumine en bleu et jaune depuis hier soir et jusqu'à dimanche. Les couleurs de l'Ukraine se déploient également sur les façades des mairies à côté du drapeau français et du drapeau européen, comme dans la petite ville de Plumeur en Bretagne. Un acte symbolique pour soutenir le peuple ukrainien, explique Ronan Loas, le maire de la commune.
On a tous été choqués, meurtris de voir cette agression russe, mais surtout ces populations apeurées, cachées dans le métro ou prenant la fuite. J'ai un de mes élus, d'ailleurs le Benjamin du conseil municipal, qui est d'origine ukrainienne, qui vit, lui, clairement dans sa chair et dans son histoire personnelle, ce qui se passe en Ukraine. Donc, on est aussi assez particulièrement sensibilisé par ça au sein de notre équipe, quoi. Il faut apporter un soutien au peuple ukrainien. On est, dans tous les cas, prêt à aider, prendre notre part et envoyer des signaux positifs et humanistes dans cette période qui est quand même un peu sombre.
La semaine prochaine, le maire de Plumeur a prévu d'organiser un rassemblement de soutien à l'image de ce qui se fait dans de nombreuses villes. Le gouvernement a même décidé d'afficher cette solidarité dont l'application tout tous anti-Covid, où apparaît désormais un petit drapeau ukrainien.
Et ce soir, édition spéciale de 18 à 20h avec les Ukrainiens sur France Inter autour de Fabienne Saint-Est. Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert ce matin le salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, un salon sous le signe de la souveraineté alimentaire, alors que les conséquences des sanctions économiques à l'encontre de la Russie pourraient aussi toucher l'activité agricole en France. Guerre oblige, Emmanuel Macron n'a pas déambulé ce matin dans les allées du salon. Il faut honorer des rendez-vous diplomatiques. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Mais le président Simon a tenu à venir pour afficher son soutien aux agriculteurs.
Oui, car d'entrée, le chef de l'État prévient.
Si je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera. Cette guerre durera. Mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables.
Ils promettent un plan de résilience pour atténuer la flambée des prix de l'énergie ou de l'alimentation du bétail. Un échange avec les responsables syndicaux, bien loin de l'ambiance de campagne attendue.
Samedi, il y a un meeting à Marseille.
Non, mais je m'occupe de...
Le grand meeting envisagé le week-end prochain paraît presque incongru. Alors, à défaut de battre son propre record de présence ici, plus de 14 heures, Emmanuel Macron en établit un nouveau, à l'inverse, à peine une heure et demie sur place. Pour qu'un président reste si peu de temps, c'est vraiment que l'heure est grave.
Et bon courage, bon salon.
Merci. Plus bon courage, monsieur.
J'y retourne.
Le Premier ministre prend le relais dans les allées. Il tente lui aussi de rassurer et balaie les menaces de pénurie.
Il n'y a pas lieu de s'affoler, je le dis. Hein. Voilà. Les sujets sont sous contrôle. Évidemment, on regarde en permanence ce qui se passe. C'est vrai pour le domaine agricole, enfin, ou alimentaire. C'est vrai aussi pour le domaine énergétique.
Conseil de défense à 17h à l'Elysée. Jean Castex en est dispensé. Il sera représenté par son directeur de cabinet. Le président l'a chargé d'assurer toute la journée la carte proximité.
Ça va ?
Ça va.
C'est super. Hein ?
Voilà.
Et pourtant, dans quelques jours, c'est bien Emmanuel Macron qui devra se muer en candidat.
Voilà ce qu'on pouvait dire de la guerre en Ukraine. Ce samedi à 13h, Simon Le Baron, merci beaucoup en direct du Salon de l'Agriculture avec Martin Troadec pour la liaison. Information sur le conflit en Ukraine à retrouver sur franceinter.fr. On part maintenant en Écosse pour ce déplacement à haut risque pour le 15 de France. Les rugbymen français sont pour le moment en tête du tournoi des Six Nations. Mais l'Écosse est leur bête noire. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Rémi.
En direct de Murrayfield pour France Inter, Fanny. Les Bleus sont bien conscients de l'enjeu de ce match.
Ah oui, toute la semaine, hein. Ils nous l'ont répété, ils n'ont pas oublié la défaite, notamment il y a 2 ans ici même à Murrayfield, la plus large encaissée en 2 ans par Fabien Galthié et ses hommes. Depuis, Dupont, Tamac, Aldrit ont bien sûr progressé, surtout ils semblent aujourd'hui insatiables dans leur volonté de marquer l'histoire. Et puis, vous savez, si jamais certains n'étaient pas bien réveillés aujourd'hui, avaient oublié l'enjeu, celui de rester invaincu dans le tournoi, hein, pour rêver encore de grands chelems, eh bien les supporters français leur ont rappelé il y a quelques minutes à leur sortie de l'hôtel. Ils ont reçu ces tricolores, un accueil digne des grands jours. Depuis hier, ce sont pas moins de 8000 Français, tous de bleu, blanc, rouge vêtus, qui arpentent les rues d'Édimbourg. Une ambiance des grands rendez-vous. Au bleu donc d'y répondre.
Fanny Lechevestrier en direct de Murrayfield pour France Inter et vous nous ferez vivre cette rencontre. Et comme chaque samedi à 13h18, le choix du service culture d'Inter. Aujourd'hui, direction le Théâtre National de Bretagne à Rennes, avec une pièce qui fait écho à cette guerre des débuté en Ukraine. Thiago Rodriguez, le futur patron du Festival d'Avignon, met en scène, dans la mesure de l'impossible, une pièce, Stéphane Capron, qui est en fait une pièce documentaire écrite à partir de témoignages d'humanitaires de la Croix-Rouge qui ont été au contact des victimes de guerre.
C'est à Genève que Thiago Rodriguez a rencontré ces hommes et ces femmes engagés dans l'humanitaire. Il a recueilli des témoignages inédits qui donnent une autre lecture de la souffrance du monde.
On l'a vécu souvent et c'était même annoncé comme ça ou commenté comme ça par les humanitaires eux-mêmes qui parfois à la fin de 3, 4, 5 heures d'interview nous disaient « Écoutez, j'ai jamais dit ça à ma famille, j'ai jamais dit ça à mes proches, je vous ai confié des histoires que j'avais jamais été capable de partager, sinon entre humanitaires. »
Les témoignages sont restitués par 4 comédiens, dont Natacha Kouchoumov, co-directrice de la Comédie de Genève et productrice du spectacle. Entendre ces témoignages quelques jours après l'invasion russe en Ukraine est saisissant.
Ils ont à la fois énormément d'humilité, d'humour quand ils nous racontent tout ça.
ils sont traversés par ces histoires et en même temps ils nous les rendent comme ça avec une forme de distance, de dignité. En même temps ils sont aussi témoins de l'absurdité du monde. C'était très fort aujourd'hui de jouer ça, particulièrement avec la guerre en Ukraine. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des événements, on est nous-mêmes acteurs traversés par tout ça, comme si ça nous replongeait dans leurs images à eux.
La pièce, rythmée par la batterie de Gabriel Ferrandini, raconte le fracas ressenti par les humanitaires et les victimes de guerre. C'est un véritable choc théâtral.
Dans la mesure de l'impossible, une pièce jouée au TNB à Rennes jusqu'au 5 mars. Et puis ce rappel, écrivez-nous si vous souhaitez faire partie du jury du Livre Inter, France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16, c'est jusqu'à lundi.